Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
C'est Nesquik.
Ah,
à la bonne heure. Doucement, doucement, vous allez vous étrangler.
Ah, le chocolat, c'est vrai que ça peut rendre dingue une bonne tablette ou un de ces délicieux petits carrés d'un des nombreux chocolatiers que l'on trouve en France. Le chocolat, c'est dingue, mais actuellement, c'est plutôt le cacao qui semble avoir un grain de folie. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi Google Podcasts, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner pour suivre le travail de la rédaction des Échos.
Pierre, on va parler chocolat. Chocolat qui est en train de devenir un produit de luxe parce que quand on voit les cours en ce moment, on atteint des records.
Effectivement, alors c'est vrai. Depuis 2 ans, le cours du cacao grimpe de façon assez spectaculaire, mois après mois, semaine après semaine.
Ah, heureusement que dans certains chocolats, il n'y a pas beaucoup de cacao. Mais c'est vrai que la flambée du prix de la fève de cacao commence à poser des problèmes aux fabricants de cette douceur sucrée. Depuis le début de l'année, le prix de cette matière première cotée à New York a bondi de 130%. Et sur un an, le parcours est encore plus impressionnant. Il a été multiplié par 3,7. Et mardi, il a même franchi un court instant la barre des 10 000 dollars la tonne. À force, on va finir par parler de cacao coin. Mais pourquoi le cacao flambe-t-il en bourse et quel impact sur le prix du chocolat ? Bonjour Étienne Goetz.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste au service marché des Échos. Que se passe-t-il sur le marché du cacao ?
C'est un peu incompréhensible. On est obligé de constater qu'il y a des records tous les jours, qu'il y a une flambée historique. Les prix atteignent des niveaux stratosphériques. Et je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Sur le marché à terme de New York, la tonne de cacao s'échange en ce moment plus de 8 300 $. Ça a augmenté de 250% en un peu plus d'un an. Et pour que vous ayez bien conscience de ce qui est en train de se passer, c'est que le dernier record historique, c'était 1977. Le record était de 5 300 $ la tonne. Grosso modo, on est dans un tout autre univers sur le marché du cacao. Alors pourquoi cette flambée historique ? Parce que la production mondiale a baissé encore cette année de 11% environ, selon les premières estimations, pour atteindre 4,45 millions de tonnes. Et ça fait suite à déjà des années précédentes qui étaient plutôt mauvaises. Donc, on a un vrai déficit d'offres. Et c'est pour ça que le cours du cacao s'envole. Alors, deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce déficit d'offres ? Pourquoi est-ce que la production a tellement baissé ? Parce que les deux principaux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui à eux seuls représentent 60% de la production mondiale, ont eu les planètes alignées contre eux. Ils ont eu d'abord des conditions climatiques et météorologiques déplorables. Il a trop plu à un moment, il y a eu un excès d'humidité, ensuite il a fait trop sec. Et sur ces conditions climatiques, s'est ajoutée en plus de ça une maladie qui fait des ravages dans les plantations. Donc, le tout a complètement décimé la production ivoirienne et ghanéenne.
Alors, c'est un problème d'offre. En face, comment se porte la demande de cacao ?
Pas trop mal. Je n'ai pas l'impression d'avoir mangé moins de cacao que les années précédentes. Je ne sais pas vous. En tout cas, on n'observe pas ce qu'on appelle dans le jargon des marchés de destruction de demande. C'est-à-dire que quand les prix augmentent de manière significative, le consommateur se dit, réfléchit à deux fois avant de manger du chocolat. Et normalement, le cacao, qui est alors on peut en discuter, mais qui n'est pas une denrée indispensable de tous les jours, on peut s'en passer, on pourrait en manger moins, et compte tenu des niveaux de prix, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une baisse de la consommation de chocolat et donc de cacao. Mais ce n'est pas ce qu'on observe, et elle est plutôt stable, en légère progression, puisqu'il y a d'autres marchés qui sont en train d'émerger en Asie, et pas seulement en Europe et aux États-Unis, où on est des très gros consommateurs. Et donc, baisse de la production, une demande relativement stable, ben on s'achemine pour une troisième année consécutive de déficit, de marché de déficit. Ça veut dire que l'offre est inférieure à la demande. Et cette année, cet écart devrait atteindre 374 000 tonnes. Donc, il manque du cacao sur le marché. Ça a pour autre effet de baisser les stocks. Et ça, ça affole les marchés. Ils regardent les stocks, ils regardent moins l'équilibre demande-offre que les stocks, parce que dès lors qu'il n'y a plus de stocks, alors là, c'est la pénurie en 24 heures.
Putain, c'est la merde.
Qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a plus de Benko, nulle part. Chez Carrefour, plus de Benko, à la Superette, plus de Benko.
Et chez Champion?
Plus de Benko, nulle part.
L'horreur d'un monde sans chocolat, un risque de pénurie après trois années de déficit de production, ça a déjà des incidences localement. Dans un article des Échos, Étienne, vous racontez qu'au Ghana, les transformateurs de cacao ont dû régulièrement mettre à l'arrêt leurs usines, faute de fèves à broyer. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande favorise bien sûr la hausse des prix, mais dans de telles proportions, ça paraît quand même étonnant. On peut se demander, Étienne, si on n'est pas dans l'irrationnel.
Alors, oui et non. Les fondamentaux sont extrêmement tendus. Et dans ce genre de contexte, c'est vrai que la moindre annonce, la moindre mauvaise nouvelle est un prétexte à une flambée assez forte. Un exemple, au Nigeria, il y a eu un incendie dans une grande plantation. Alors, le Nigeria, ça n'est ni la Côte d'Ivoire ni le Ghana. C'est un producteur assez important. Cet incendie a eu un effet important dans cette plantation, mais ce n'est pas non plus la face du marché du cacao qui est en train de changer. Et bien, paf, le lendemain, le cacao a pris 7% à New York. Donc, chaque mauvaise nouvelle est prétexte à alimenter la hausse. Et puis, c'est vrai, il y a une partie quand même incompréhensible, et je le lis dans les notes d'analystes ou dans les dépêches des agences spécialisées comme Bloomberg qui regardent ce marché de très près. Il y a des choses qu'on ne comprend pas trop et on se demande si la spéculation par les hedge funds ne jouerait pas un rôle dans cette hausse. Alors, pour rappel, on appelle spéculation, notamment celle des hedge funds, sont des financiers qui prennent des positions sur les marchés à terme et qui achètent ou vendent du cacao sans jamais voir passer le moindre sac.
Voilà, ils spéculent sur la hausse ou la baisse future d'un produit de matière première, hein, c'est ça, sans jamais les avoir dans la cave, on va dire, ou dans un hangar. Hein.
Non, parce qu'ils achètent du cacao papier. C'est juste des contrats à terme. C'est, voilà.
Ça... c'est moins bon, hein, le cacao papier. Enfin, à mon goût. Hein.
Il paraît. Alors, ces acteurs financiers jouent un rôle traditionnel d'apporteur de liquidités pour permettre aux acteurs physiques, aux négociants, aux producteurs, aux importateurs, aux chocolatiers, de se couvrir sur les marchés financiers contre une évolution trop brutale ou trop défavorable. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'ils ont pris des positions plus importantes que d'habitude. Au début de l'année, leur position était de 8 milliards de dollars, ce qui est énorme, ce qui était assez historique comme niveau. Et donc, on se demande si ces positions-là n'ont pas accentué un peu la flambée. Mais ce n'est pas tout à fait net parce que, depuis, ils ont eu tendance à réviser à la baisse leur position. Ils ont moins de positions sur les marchés parce qu'ils se disent « Oula, ça va bientôt se retourner, donc on sort du marché ». Voilà. Donc, il y a des choses qui sont encore pas très claires.
Une chose qui est claire, en tout cas, c'est que le prix s'envole. Étienne, on peut espérer que cette hausse est au moins une bonne nouvelle pour ceux qui récoltent les fèves de cacao?
Pas vraiment, parce que les deux principaux pays producteurs, la Côte d'Ivoire, environ 40% de la production mondiale, et le Ghana, 15-20% selon les années, bah, dans ces deux pays, les prix sont administrés. Il y a des systèmes de régulation pour protéger les planteurs contre les variations d'une année sur l'autre et pour stabiliser un peu leur rémunération. Et donc, ces deux pays ont des systèmes un peu différents, mais grosso modo, ça revient à ce que le prix touché par les planteurs, ce qu'on appelle le prix borchon, celui qui est effectivement payé à l'agriculteur, ce prix-là est fixé par le Conseil Café-Cacao en Côte d'Ivoire et par le Cocobod au Ghana. Et il est établi sur la base des prix de vente des années passées. la Côte d'Ivoire accorde des licences et autorise les négociants à acheter tant et tant de cacao en Côte d'Ivoire. Au Ghana, c'est beaucoup plus administré comme système, puisque c'est le cocobode qui achète aux planteurs et qui revend ensuite aux multinationales.
On comprend bien que ça, c'est un système pour protéger hein, les agriculteurs, qu'ils aient au moins un revenu minimum qu'ils touchent, mais c'est-à-dire qu'ils ne profitent pas du tout, finalement, de la hausse des prix. Qui en profite dans ces cas-là, notamment dans ces deux pays? C'est-à-dire que c'est le cocobode, par exemple, qui, là, récupère beaucoup d'argent?
Alors, en ce moment, on peut penser ça, et le conseil café cacao, mais c'est surtout que les planteurs vont profiter de la hausse des prix, mais avec un an de décalage, au moins. Et ça change tout pour eux.
Dans d'autres pays, ça fonctionne comme ça?
C'est spécifique à la Côte d'Ivoire et au Ghana, puisqu'ils avaient une place tellement importante sur le marché du cacao et ça fait vivre tellement de ménages qu'il a fallu trouver ce système qui, par vache maigre, est plutôt protecteur, mais qui, partant de flambées historiques comme en ce moment, a quelques inconvénients. Puis j'aimerais aussi parler d'un autre phénomène, c'est que certes, le prix augmente, mais les volumes baissent puisque la production est plus mauvaise. En Côte d'Ivoire, on est autour de 20% de production en moins. Au Ghana, c'est peut-être un peu plus. Donc, même si les prix montent, quand vous vendez moins, vous y retrouvez pas toujours. Donc, pour les planteurs ivoiriens et ghanéens, franchement, les temps ne sont pas simples.
Est-ce que cette hausse pourrait aussi réduire la dépendance du marché de cacao, justement, aux récoltes des pays africains, et notamment de ces deux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana?
C'est une hypothèse qui est avancée par certains analystes, c'est que la carte du cacao mondial est en train de se redessiner. Elle ne va pas se redessiner complètement. Je pense que la Côte d'Ivoire et le Ghana continueront de jouer un rôle majeur sur ce marché-là. Mais on va pouvoir peut-être voir émerger de nouveaux acteurs, parce qu'au Cameroun, au Togo, au Brésil ou au Vietnam, le marché est totalement libéralisé. C'est-à-dire que si ça fait 7% le lundi, le planteur qui vend son cacao le mardi, il le vend 7% plus cher. Eux, ils vont recevoir tout de suite de l'argent, ils vont capter cette hausse, ils auront du cash à réinvestir dans leur plantation pour augmenter leur volume. Et donc, ils auront non seulement les moyens financiers d'investir pour augmenter leur production, mais ils sont surtout incités pour justement profiter le plus rapidement de cette hausse.
C'est un souci, notamment dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, où les cacaouillers sont un peu anciens, c'est ça? Ils auraient besoin finalement d'être renouvelés?
Ils sont très anciens, il faudrait faire pas mal de travail pour améliorer les plantations. En Côte d'Ivoire et au Ghana, c'est vraiment un système artisanal de petites familles qui ont 1 hectare, 2 hectares de plantation. Elles ne sont pas toujours bien entretenues. Les vergers ont été plantés il y a assez longtemps. Ils sont sujets à des maladies. La taille n'est pas systématique dans les plantations. Contrairement au Brésil, par exemple, où là, on applique des méthodes plus industrielles qui sont plus productives et moins sujettes à certaines maladies.
Alors, Étienne Pack approche. Les prix vont-ils bientôt se calmer? Que vous disent les experts que vous avez au téléphone?
Pas grand-chose, hein. On est tous un peu surpris. La seule chose qu'on me dit, c'est « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel », un vieux dicton. C'est assez étonnant, mais il y a quelques mois, je discutais avec un économiste spécialiste des matières premières. Il me disait « quand même, à 6 000 $, ça ne peut pas monter beaucoup plus haut ». C'est en train de continuer de monter. Alors, il y a quelques semaines, j'avais lu une note de Citi qui disait que le cacao pouvait monter jusqu'à 10 000 $ la tonne, ce qui paraissait complètement ahurissant il y a quelques semaines et qui relevait du scénario très improbable. Aujourd'hui, est une possibilité qui est en train de se concrétiser et qui ne serait pas surprenante.
Et le cacaoyer continue son ascension vers le ciel. Depuis l'enregistrement de cette interview avec Étienne, la hausse s'est poursuivie. Et le cacao coté mercredi à New York, plus de 9 600 $ la tonne, la barre des 10 000 ayant été franchie la veille.
Et figurez-vous, quand elle est passée en Suisse, elle est passée par la douane.
Oui.
Et elle a fait une grosse tablette de chocolat de 500 grammes.
Non.
Et ils l'ont fouillée partout.
Partout.
500 grammes.
Pour 500 grammes.
Oui, mais à ce prix-là, le chocolat est en train de devenir un produit de luxe. On passera à des tablettes en Suisse et plus seulement des lingots d'or. Étienne, justement, quel est l'impact de la flambée du cacao sur le prix du chocolat?
Pour le moment, Pas tant que ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le cacao, c'est pas le seul ingrédient du chocolat. Il faut aussi prendre en compte le prix du sucre. Le sucre avait beaucoup augmenté ces derniers mois, mais aussi, ça s'est franchement détendu sur ce marché-là. Donc, le coût des ingrédients du chocolat ne sont pas si élevés que ça. Puis, le cacao, ça représente pas grand-chose dans le coût de production final d'une tablette de chocolat. Il faut imaginer que aussi, on n'a pas besoin de beaucoup de cacao pour faire du chocolat. Je vous parle pas des très bons chocolats de chez un chocolatier, votre chocolatier du coin, mais pour une barre chocolatée de grande marque, de multinationale. On peut remplacer une partie du beurre de cacao par de l'huile végétale, on peut mettre un peu de lécithine de soja, on peut mettre plus de poudre de cacao qui coûte pas cher et un peu moins de beurre de cacao. Enfin, bref, on peut changer la recette pour baisser les coûts de revient. Mais globalement, ça va quand même mal dans le monde du chocolat parce que ce soit Hershey, Barry Calbo ou Nestlé, ils ont tous des problèmes. Il y en a un qui dit que la croissance de ses profits va ralentir, l'autre qui licencie des centaines de personnes, et Nestlé qui se dit « je vais arrêter d'augmenter les prix parce que sinon je vais faire chuter la demande ». Donc dans le monde du chocolat, ça va plutôt mal, et il faut s'attendre à quand même à quelques hausses de prix, mais je pense que pour nous, consommateurs occidentaux, ces hausses seront relativement modérées et n'auront pas d'effet rédhibitoire pour Pâques.
Voilà, vous êtes un peu notre lapin de Pâques aujourd'hui, hein, qui vient nous apporter des bonnes nouvelles, Étienne. Les producteurs, vous le disiez, sont inquiets, et les acheteurs aussi, à commencer par l'un des plus gros acheteurs de fèves dans le monde, hein, le Suisse Nestlé, dont vous parliez à l'instant.
Alors, ils sont tous un peu inquiets de manquer physiquement de fèves de cacao. Les instances de régulation en Côte d'Ivoire et au Ghana essayent de se montrer rassurantes en disant « non, il y aura du cacao pour tout le monde ». On avait anticipé la baisse. C'est vrai que les ventes de cacao se font à l'avance dans ces deux pays. Donc, quelque part, on pouvait un peu anticiper tout cela. Mais chacun est en train d'essayer de sécuriser son approvisionnement. Et Nestlé a notamment mis en place un programme pour à la fois améliorer la rémunération des planteurs en Afrique de l'Ouest, mais aussi pour, quelque part, sécuriser son approvisionnement. Ce programme, c'est assez simple, hein, c'est de donner 500 francs suisses, grosso modo 500 euros par planteur, sans condition de production, c'est-à-dire que c'est pas si vous produisez tant, si vous nous vendez tant, on vous donne cet argent, mais c'est sous des conditions plus sociales et environnementales. Il faut que les enfants aillent à l'école, parce que le travail des enfants dans les plantations est un sujet important. Il faut pas qu'il y ait de déforestation. Ça, c'est l'autre sujet, puisqu'il y a une loi européenne qui est en train d'entrer en vigueur et qui va mettre un embargo sur tout le cacao, le café et tous les produits agricoles issus de la déforestation. Et pour les Ivoiriens, la meilleure manière d'augmenter sa production, c'est de faire un peu de déforestation à côté de sa plantation. Et puis, il faut mettre en place des bonnes pratiques d'agroforesterie, de commencer à bien tailler sa plantation pour qu'elle soit aérée, qu'il y ait plus de soleil, donc moins de parasites. Ça donne franchement de meilleurs rendements. Et donc, tout ça est en train de se mettre en place. Et c'est un programme qui est soutenu par Nestlé. Il y en a d'autres qui payent des primes sur le cacao qu'ils achètent. Il y en a qui font un peu tout à la fois. Donc, c'est un vrai sujet de renouveler la production, de soutenir la production, pas simplement pour des questions sociales et environnementales, mais aussi pour avoir assez de cacao à mettre dans les barres Kit Kat et autres chocolats et lièvres de Pâques.
Merci Étienne Goetz, spécialiste des matières premières au service marché des Échos. Pour retrouver tous les articles d'Étienne, rendez-vous sur le site leséchos.fr à la rubrique Marché et Finances. Et si vous n'êtes pas abonné, il n'est pas trop tard, rendez-vous sur le site abonnement.leséchos.fr/la-story. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de ce podcast des Échos. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.